Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus le Christ selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 14e dimanche. Le Seigneur désigne encore 72 autres et les envoie deux par deux devant lui, en toute ville et en tout lieu où lui-même doit aller. Il leur dit :
La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. N'emportez ni bourse, ni sac, ni sandales. En chemin, ne vous attardez pas en salutation. Dans toute maison où vous entrez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle vous reviendra. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'il y a chez eux. Le travailleur mérite en effet son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrez et où vous êtes accueillis, mangez ce qu'on vous sert. Là, guérissez les malades et dites-leur, le règne de Dieu est tout proche de vous. Dans toute ville où vous entrez et où vous n'êtes pas accueillis, allez sur ces places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Je vous le déclare, au jour du jugement, ce sera plus tolérable pour Sodome que pour cette ville. Malheureuse es-tu, Chorazim, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles faits chez vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient converties sous le sac et la cendre. Celui qui vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Celui qui vous rejette, c'est moi qui le rejette. Et celui qui me rejette, il rejette celui qui m'a envoyé.
Les 72 reviennent tout joyeux. Ils racontent :
Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom.
Jésus leur dit :
Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits mauvais vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux.
À ce moment, Jésus déborde de joie sous l'action de l'Esprit-Saint et il dit :
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir caché ces choses à des sages et des savants et de les avoir dévoilées à des petits et des humbles. Oui, Père, tel est ton choix d'amour. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sauf le Père, et personne ne connaît qui est le Père sauf le Fils, et celui à qui le Fils a dessein de le dévoiler. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Il en désigne 72 qu'il envoie. Envoyé par qui, vers qui, pourquoi? Voilà, résumé en quelques mots, le sujet de notre réflexion autour de ce passage de l'Évangile.
Alors ce passage se situe au début de la section du récit de Luc que l'on appelle « La montée vers Jérusalem ». Cette section débute au chapitre 9, verset 51. Comme arrive le temps de son enlèvement, Jésus se détermine à monter vers Jérusalem. Et elle va se terminer au chapitre 19, où commence l'entrée dans la ville sainte. Il y a déjà eu un premier envoi en mission, au chapitre 9, qui concernait les 12. Mais, contrairement au récit de Matthieu, Luc va développer maintenant le discours d'envoi. Il faudra donc nous demander quelle est son intention. Alors regardons maintenant le texte. Envoyé. Ils sont 72 et non plus 12. Ils sont envoyés deux par deux. car, pour le peuple de la Bible, toute parole est crédible s'il y a au moins deux témoins. C'est en effet ce que demande la Torah au chapitre 19 du Deutéronome.
Un témoin ne se présentera pas seul contre qui aura commis un crime, un péché ou une faute, quel qu'il soit. C'est sur les déclarations de deux ou trois témoins qu'on pourra instruire l'affaire.
Ils sont envoyés en avant du maître. Contrairement au titre « Mission des 72 disciples » qui est souvent donné par les traducteurs, ils ne sont pas seulement des disciples, des élèves du Rabbi Jésus de Nazareth. Ils sont des envoyés, avec les pleins pouvoirs de celui qui les envoie. Ils sont donc comme les douze, des apôtres, puisque ce mot est la traduction du verbe grec employé ici, « apostello », qui veut dire « envoyé ». Et ils sont même les représentants de l'envoyeur. « Qui vous écoute, m'écoute, et qui vous rejette, me rejette. » Ils vont donc parler et agir en son nom. Les rabbins juifs disaient de l'envoyé qu'il est comme l'envoyeur lui-même. Recevoir l'envoyé, c'est donc recevoir l'envoyeur. Et les envoyés vont transmettre le message que l'envoyeur leur a fait connaître. Mais quel est le véritable envoyeur? Ils sont certes envoyés par Jésus, mais Jésus, lui, est envoyé par le Père. Et donc c'est indirectement le Père même qui les envoie. Qui les rejette, rejette Jésus, le Fils bien-aimé du Père, dont il proclame le message. Et il rejette le Père qui envoie Jésus. C'est sans doute ce que veut renforcer l'évocation du jour du jugement. Celui qui rejette la paix de Dieu, celui-là fait son propre malheur, car il s'est éloigné de la source du vrai bonheur. Ils sont 72. Ce chiffre représente dans le premier livre de la Genèse, de la Bible, la Genèse, le nombre de tous les peuples de la terre. La version hébraïque du chapitre 10 de la Genèse parle de 70 peuples, tandis que la version grecque parle de 72. Et on trouve également cette variante, 70 ou 72, dans les divers manuscrits que nous avons du récit de Luc. Le règne de Dieu ne s'arrête donc pas aux frontières d'Israël. Cette mission des 72 va commencer bien sûr en Samarie, la province jugée hérétique par les Juifs de Judée. Mais ce sera à tout le monde païen que seront envoyés les témoins de Jésus après l'ascension.
Au nom du Christ, on prêchera la conversion et le pardon à toutes les nations. C'est vous qui en êtes les témoins.
Déjà le récit nous oriente dans ce sens lorsqu'il précise que les 72 sont envoyés en toute ville et en tout lieu où lui-même doit aller. Alors que Matthieu parle de villes et bourgades, Luc parle de lieux, un terme qui désigne des pays. Il a sans doute à l'esprit la mission qui sera décrite dans les Actes des Apôtres et qui va concerner, après la Pentecôte, tous les pays de la Méditerranée. L'image des agneaux et des loups était utilisée par Israël pour évoquer sa situation parmi les populations païennes. L'image du troupeau est aussi fréquemment reprise dans les évangiles pour désigner les disciples.
Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire voit-il venir le loup, abandonne les brebis. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre père de vous donner le royaume.
Les envoyés du pasteur devront proposer le message à tous les humains pour parvenir à réunir, comme le dira l'évangile de Jean, les fils et les filles de Dieu qui sont dispersés. Jean, en effet, traduit ainsi la mission.
La parole de Dieu est venue dans le monde. À ceux qui l'ont reçue, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Pour Jésus, et donc pour ceux qui l'envoient, il n'y aura plus ni blanc, ni noir, ni riche, ni pauvre. Paul dira aux chrétiens de la ville de Colosse.
Il n'y a plus grec et juif. Circoncis, incirconcis, barbare, scythe, esclave, homme libre. Mais Christ, il est tout et en tous.
Tout chrétien doit être donc par définition un frère, une sœur catholique, c'est-à-dire universel selon le sens propre du mot grec catholicos, qu'on traduit en français par catholique. Tout groupe chrétien, pour être catholique, doit donc être un groupe ouvert à tous, sans exclusive. Le règne de Dieu ne peut être enfermé dans un peuple, dans une société, dans une église. Jésus souligne qu'il pourra arriver que des païens accueillent plus facilement le message de Dieu que des juifs. Les villes de Tyr et de Sidon qui sont évoquées ici sont en effet dans l'Évangile le symbole des villes païennes qui ont accueilli plus facilement le message que certaines villes juives où les cœurs étaient endurcis.
Ils sont envoyés, pourquoi ?
Eh bien, ils sont envoyés pour annoncer la paix, pour guérir, pour dire que le règne de Dieu est proche. Annoncer la paix est justement ce que, selon la tradition biblique, le Messie doit apporter. Pour un juif, la paix est synonyme de concorde, d'unité, d'harmonie. Et en ce sens, la guérison est aussi un élément de la paix. La guérison, c'est une harmonie intérieure. C'est l'unité retrouvée de tout l'être au plan psychique et au plan physique. La guérison apportée par Jésus et par ses employés et par ses envoyés ne peut jamais être seulement physique. Elle est guérison autant de l'âme que du corps, guérison morale qui rendra le corps plus sain. Les envoyés sont porteurs d'une paix intérieure en chaque personne qui va aussi faire la paix entre les personnes. La paix dans la famille, dans le milieu de travail, au sein des groupes et des associations, dans la société. C'est une paix qui vient de Dieu, de son esprit qui viendra habiter la maison familiale pour en faire la demeure de Dieu. Mais une paix qui se propose sans jamais s'imposer. En effet, imposer la paix, c'est la détruire, la renier. S'il se trouve un être de paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle vous reviendra. Mission difficile, car le plus souvent, le monde n'est pas un monde de paix. Le monde des humains est dur, un monde de loups. Il est animé par le chacun pour soi, par la violence, la domination, l'exploitation de l'humain par son semblable. L'homme est un loup pour l'homme. Dans ce milieu de loups, ceux que Jésus envoie devront être comme des agneaux. L'agneau est le symbole de la douceur et de la faiblesse. Cette figure de l'agneau, l'Église des premiers temps l'appliquait à Jésus. Jean l'évangéliste met ce qualificatif dans la bouche de Jean le Baptiste au baptême de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et cette image vient probablement des prophètes. Jérémie se comparait à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Et la même image se retrouve dans les chants du serviteur dans le livre du prophète Isaïe. Face à la violence, l'envoyé de Jésus, comme Jésus lui-même, n'aura d'autre force que celle du don de soi, comme l'agneau dont parlent ces chants du serviteur.
« Voici mon serviteur que je soutiens, dit Dieu, mon bien-aimé, objet de mon amour. J'ai mis en lui mon esprit pour qu'il apporte à tous les peuples la droiture. Affreusement traité, il s'humilie. Il est comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui y vont la tondre. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton. »
Et le serviteur dit encore de lui-même,
« Moi, je n'ai pas résisté. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. »
Pour tenter de comprendre comment la faiblesse peut être une puissance de vie, j'emprunte à Stan Rougier cette phrase « L'amour qui domine est un amour blessant. Les êtres blessés se sentent diminués. On ne peut donc les rejoindre qu'en étant soi-même petit. Celui qui se croit fort ne peut véritablement aimer, il ne peut apporter le véritable amour. » Lao Tzu, un philosophe chinois, né 500 ans avant Jésus, a écrit ce beau texte.
« Quand il vient au monde, l'homme est souple et sans force. Une fois mort, le voilà dur et raide. Les roseaux et les grands arbres, quand ils sont encore petits, plient et sont fragiles. Quand ils meurent, ils sont devenus secs et cassants. C'est que la force et dureté sont camarades de mort. Docilité et souplesse sont amis de la vie. La force, en définitive, n'a jamais rien conquis. »
L'amour suppose l'humilité, de celui qui veut avoir besoin de l'autre. Car l'amour n'est jamais en sens unique, il implique la réciprocité, même en Dieu. Dieu est amour parce qu'il y a entre les trois, le Père, le Fils, l'Esprit, une communion réciproque, un accueil mutuel, une solidarité, une sorte de complémentarité. Jésus va se présenter comme l'humble frère, le serviteur au nom de l'amour, le témoin d'un Dieu de tendresse et de pardon, le pauvre qui n'a rien à donner en partage que son amour. Les envoyés doivent aussi témoigner de cette pauvreté, n'emporter ni argent, ni sac, ni sandales. C'est-à-dire, ne misez pas sur l'avoir comme s'il était le but de votre vie, mais soyez des témoins de l'amour. Si le missionnaire a droit à son salaire, c'est un salaire pour subsister et non pas pour s'enrichir. Matthieu dira que le missionnaire a droit à sa nourriture et Luc va expliciter ce salaire en demandant de manger et de boire ce qui sera offert. Être un agneau au milieu des loups, c'est aussi être comme l'humble et le petit au milieu de ceux qui se croient des sages et des savants. Car seulement celui qui vit humble et vulnérable peut comprendre ce mystère de la vie que Dieu révèle en Jésus. La vie ne se déploie que dans l'humilité qui seule peut vaincre la force qui fait violence et domine. La vie ne grandit que dans l'amour humble et généreux qui seul peut guérir les cœurs de l'égoïsme. L'envoyé, humble et petit, sera ce signe de la tendresse et de l'humilité de Dieu. J'aime bien cette parabole juive qui compare l'univers au trône de Dieu.
Pour tenir solidement, l'univers a été érigé sur quatre pieds. Mais l'un des pieds était trop court. Alors Dieu a pris une petite pierre pour caler ce pied. Cette petite pierre, c'est la tendresse, le don de l'amour généreux.
Un don qui vient de Dieu, source de tout amour. Le monde ne peut se construire que sur cette petite pierre de la bonté généreuse. Et là se trouve la joie et l'action de grâce de Jésus. Béni sois-tu, Père, car des petits et des humbles découvrent ce qui reste caché à des sages et à des savants.
Le règne de Dieu est proche.
Tout au long de l'histoire humaine, il nous faut prier pour que des cœurs humbles accueillent la mission du Père, pour qu'ils deviennent véritablement des envoyés, fidèles à l'esprit de celui qui les envoie. La joie de ces ouvriers, de ces envoyés, ne se trouve pas d'abord dans la victoire contre le mal. Ils savent trop qu'ils sont eux-mêmes des êtres fragiles et pécheurs, et car certaines heures, ils peuvent être comme des loups. C'est en accueillant pour eux-mêmes la tendresse et le pardon de Dieu qu'ils deviennent témoins de Dieu comme source de paix. Ils puisent leur joie dans le regard de Dieu, dans le regard d'un Père, un regard qui dit et redit l'amour. C'est là qu'ils puisent cette certitude dont ils doivent être les témoins. Certains théologiens et spirituels se font les défenseurs d'un Dieu tout-puissant, du Dieu très haut. Et ils ont raison d'une certaine manière, car Dieu est l'inaccessible, dont on ne sait rien. Mais Jésus, lui, nous dit que Dieu, le Dieu tout-puissant, créateur éternel des univers infinis, que ce Dieu est aussi et d'abord notre Père. Jésus nous invite à cette intimité avec ce Père, qu'il appelle Abba, notre Papa. L'adoration, toute pleine d'un respect sacré pour la divine Trinité, va de pair avec cette confiance qui nous permet de nous abandonner à ce Papa, comme l'humain, lorsqu'il est tout petit, se jette avec confiance dans les bras de son père ou de sa mère. C'est parce qu'il s'offre à nous comme père, comme papa, que Dieu est proche. certains scribes et pharisiens du temps de Jésus, et on pourrait dire de tous les temps, sont préoccupés de la justice, de la droiture de l'humain devant le Dieu parfait. Ils ont raison pour une part en ce qu'ils proposent une vie de sainteté. Mais le Dieu Père de Jésus n'est pas le Dieu juge qui calcule fautes et gestes méritoires pour mesurer punition ou récompense. Un tel Dieu est et restera toujours un Dieu lointain, un Dieu inaccessible pour l'être humain pécheur. Oh, ce visage d'un Dieu qui punit et récompense nous est trop naturel. Il est tellement semblable, ce Dieu, à la façon dont nous concevons les relations entre humains. Depuis notre enfance, nous sommes en effet éduqués à mériter l'estime, à croire que pour être aimé de nos proches, il faut être aimable, à croire qu'il faut être grand et fort pour mériter de Dieu. Dieu, le Dieu de la Torah, de la règle de vie, le Dieu juge du bien et du mal, est aussi et d'abord le Père qui pardonne son amour toujours et sans condition. Il est le Père qui est remué jusqu'aux entrailles devant la souffrance morale de ses fils et de ses filles. C'est parce qu'il est pardon que Dieu est proche. Si certains païens accueillent plus facilement que certains juifs ce Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ont une vie morale meilleure, mais parce qu'en ne pouvant s'appuyer justement sur leur titre de membre du peuple de Dieu, ils ne peuvent que se confier au Dieu qui pardonne. Dieu n'est proche que de ceux qui l'accueillent tout simplement sans vouloir mériter de lui. Il faut faire l'expérience de nous laisser aimer du Dieu Père pour que vienne en nous une paix que rien ne pourra nous ravir. Seuls des êtres habités par la paix de Dieu peuvent devenir les envoyés de Jésus. Être témoin de la paix que Dieu nous donne, tout l'évangile de Jésus est là. Mon frère, ma sœur, Dieu est proche et il t'aime. Chrétiennes et chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes donc envoyés au monde pour témoigner de cette tendresse, de cette proximité de Dieu. Nous sommes envoyés en toute ville et en tout lieu où Jésus doit aller. La moisson est abondante et le troupeau du Christ toujours petit. Grégoire le Grand, un pape de la fin du VIe siècle, disait aux chrétiens
« Les ouvriers sont peu nombreux pour une abondante moisson. S'il ne manque pas d'auditeurs pour la bonne parole, il manque d'hommes pour la porter. Celui qui reçoit le ministère de la parole ne doit pas faire le mal, mais le supporter, afin d'apaiser, dans sa douceur même, la colère de ceux qui le persécutent, et afin de guérir chez les autres les blessures de leurs péchés, tout blessé qu'il est lui-même. »
Notre zèle doit procéder de l'amour. Dans un monde souvent dirigé par les loups, les chrétiens, pour être missionnaires, doivent être comme des agneaux. Mais cette image, ne nous trompons pas, est loin de dire la résignation du pauvre face aux puissants et aux riches. Elle évoque plutôt la victoire de celui qui déploie sa force dans notre faiblesse, comme le dira l'apôtre Paul.
« Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Je n'hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur, pour le Christ, les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. »
L'Apocalypse de Jean décrira, elle aussi, l'agneau comme étant celui qui est vainqueur du mal.
« Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. »
Malgré le petit nombre des disciples du Christ Jésus, malgré l'apparente faiblesse des forces du bien et de l'amour dans notre monde, Jésus est source d'une espérance indéfectible qui doit faire de ses envoyés des témoins de l'amour plus fort que la mort et le mal. Madeleine Delbrel, ce grand témoin de la foi du XXe siècle, disait « En face de l'Évangile, ce n'est pas d'être peu nombreux qui est grave, c'est d'être immobile et de marcher comme des vieillards. La promesse de Jésus demeure à travers les siècles, ne crains pas, tout petit troupeau, il a plu à votre Père de vous donner le royaume.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous nous trouverez également sur Internet. Voici l'adresse de notre site www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal est en un seul mot et sans trait d'union. Vous pouvez demander aussi les tarifs pour des abonnements, soit au feuillet, soit aux cassettes.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.